Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec le quartet Toun d'été que nous partons ce soir. Un groupe insolite, un univers atypique, c'est le quartet Toun d'été. Une musique à la croisée des traditions musicales péruviennes et du jazz contemporain. Un voyage intimiste où se mêlent des sonorités métissées, nous conduisant dans une transe rythmée. Une traversée où le temps, l'espace s'effacent, laissant place à l'unité. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
Merci beaucoup Marine, c'est un plaisir d'être ici, d'être invité à cette émission.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on vous retrouve avec le quartet Toun d'été, vous, Adriel Calvello à la guitare, accompagné de Grégoire Sanchez aux percussions et à la batterie, Lisa Bertrand à la flûte et au saxophone, et Léo Messina à la contrebasse. Un voyage atypique entre des sonorités trad et modernes, un savant mélange où la créativité dépasse les frontières culturelles pour célébrer, nous faire vibrer. Alors d'où vient cette passion pour ces univers musicaux?
Alors, le Toun d'été Quartet prétend, ou au moins essaye de fusionner plusieurs univers différents, déjà l'univers personnel de chacun des intégrants, vu que c'est un groupe où il y a beaucoup d'improvisation. On s'est tous rencontrés par le milieu du jazz. Le quartet est né à la base de cette rencontre entre nous tous par différents biais, que ce soit par le conservatoire, parce que on est plusieurs à avoir été ou à être élèves du CRR de Lyon. Par biais d'amis, par ici, par là, par biais de l'ONM, on s'est rencontrés tous dans ce monde assez varié, ouvert et libre de l'improvisation et du jazz. Et vu que avec Léo, le contrebassiste, j'avais déjà un projet où on travaillait, on développait la musique afro-péruvienne et le jazz un peu en fusion, il y a eu cette étincelle. Notamment à la rencontre avec Grégoire, parce que Grégoire c'est devenu un très très cher ami que j'ai rencontré en fin 2023 et avec qui on a développé une relation non seulement amicale mais aussi musicale que je trouve extraordinaire. Et dès qu'on s'est rencontrés, on a directement pensé à marier la percussion et le cajon notamment, je vais en parler après, mais à marier le côté percussif avec le côté guitaristique de cette musique folklorique de la côte du Pérou, la musique créole / afro-péruvienne de là-bas. Ce n'est pas la même chose, mais ça fait partie de la même région. C'est pour ça que je le mets sous la même catégorie. Et on s'est rencontrés. On a rajouté cette rencontre à celle qu'on avait déjà avec Léo. Et on a vu que, ben, à nos oreilles, ça marchait très bien. Et on s'est dit, il manque une sonorité de vent. Et j'ai directement pensé à mon amie Lisa, qui d'ailleurs s'est proposée pour faire partie de ce quartet, et c'est comme ça que le quartet est né, à base de cette envie de rentrer à fond dans des sonorités qui sont assez atypiques et peu écoutées ici, juste parce que c'est pas le genre le plus populaire au monde, mais Mais il y a eu un quelque chose qui nous a tous attirés, peut-être certains par plutôt par le cœur, parce que bon, moi j'ai grandi et j'ai vécu la plupart de ma vie au Pérou. Je suis péruvien et français. Et Grégoire montre une passion absolument qui moi me fait halluciner pour cette musique, alors que lui n'est pas péruvien, mais presque.
Et alors, vous avez appris la musique au Pérou. Comment ça s'est passé?
Au début, de façon autodidacte. En fait, moi, je joue du piano depuis que j'ai 5-6 ans. Et ça m'a toujours passionné, la musique, l'univers en général. J'ai toujours été exposé à beaucoup de musique de part de mes parents, de part de mon environnement. Il faut savoir que le Pérou est un pays très riche culturellement. Il y a 1 million de raisons, mais rien que, par exemple, d'écrire que Lima, la capitale où j'ai grandi, c'est une ville actuellement à 13 millions d'habitants. En tout cas, le département tout entier, et c'est une ville d'une taille pas à l'échelle européenne, soi-disant. Le quartier de où était mon lycée est plus grand que l'aire de Lyon métropolitain, pardon. Et du coup, j'ai commencé à apprendre la guitare dans mon adolescence en ayant écouté du Radiohead. C'était le premier groupe qui m'a fait vouloir prendre cet instrument. Et après, j'ai commencé à prendre des cours avec un grand maître de la guitare péruvienne et un musicien que j'admire extrêmement, qui s'appelle Andrés Prado. Justement, une grosse partie de l'esthétique de Tundete Quartet est due à l'esthétique que lui, il a développée dans ses projets, et notamment dans le Andrés Prado Trio. C'était aussi un des points de rencontre qu'on a eu avec Grégoire. Lui, il était fan d'Andrés Prado avant qu'on se connaisse, et moi, j'avais été élève de lui, et maintenant, c'est devenu un très cher ami, un très cher mentor, d'une certaine façon.
Et... Pas de coïncidence, alors.
Ah oui, carrément, des trucs improbables de la vie.
Et donc, après, comment voilà, vous êtes intéressé au jazz, aux musiques un peu plus occidentales?
C'était aussi par biais de Andrés. Andrés, ce fut mon premier prof. Il m'a introduit au monde du jazz, de la musique latino-américaine, des styles folkloriques afro-péruviens surtout, mais aussi de la musique argentine, de la musique brésilienne, de la musique uruguayenne, paraguayenne. C'était vraiment une découverte à tout point de vue. Il m'a vraiment ouvert les yeux à d'autres horizons que je ne soupçonnais même pas. Et c'est peut-être lui qui a mis qui m'a fait faire le premier pas dans ce parcours infini. Je pense que tout artiste fait face à un moment ou autre de sa carrière, de voir cet horizon de possibilités dans ton domaine choisi qui s'étend vers l'infini et toujours plus, le plus tu sais. Et ça provoque énormément de trucs différents chez les gens. Je pense que j'ai la chance que, dans mon cas, ça me pousse toujours à aller vers l'avant, à découvrir plus, à aller chercher, gratter dans l'inconnu. C'est comme ça que je suis tombé sur le jazz, et ce qui m'a le plus raccroché, le plus parlé à cœur dans ce style, c'est la liberté qu'il offre. La liberté et surtout la liberté d'expression de par l'improvisation, bien sûr. Pour nous, au moins dans le quartet, c'est notre façon de dialoguer et de créer des conversations ineffables qui sont plus importantes que ce que chacun est en train de dire avec son instrument. C'est un tout élevé, soi-disant. Au moins, c'est notre sensation. C'est cette transe à laquelle on aspire. Parfois, on la réussit pas, mais mais on cherche toujours.
Oui, et quand vous arrivez en France, alors qu'est-ce que vous apprenez sur cette musique française, sur cette culture? Comment elle nourrit dans votre créativité?
Elle nourrit, au moins là, si je regarde en perspective, c'est ma quatrième année que je suis en France. J'ai eu la chance de faire un parcours scolaire au Pérou dans un lycée bilingue, franco-péruvien. Et j'ai toujours été exposé, soi-disant, d'une façon académique à la culture française, genre l'histoire de la France, la géographie française. Mais c'est très différent quand on vit dans une autre réalité de rattacher, je dis n'importe quoi, mais Louis XIV et des trucs comme ça, quand on sort de son lycée et on voit une réalité d'un autre continent. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est juste voilà une double vision du monde qui est très intéressante, surtout de l'avoir depuis qu'on est petit. Mais en arrivant en France, connaissant déjà en théorie cette culture, mais ayant l'expérience inouïe de d'y faire face directement, c'est complètement différent, parce que déjà quelque chose qui moi me fascine ici, c'est la langue et la diversité de la langue française par région. Parce que tous les accents, toutes les expressions, toutes les façons de parler, tous les termes qui changent de signification d'une région à l'autre, ça on peut pas te l'apprendre au lycée quand t'es dans un autre continent. C'est un truc à vivre, et c'est là où tu sens aussi, je sens des notions d'identité très fortes entre région et région, peu importe si c'est par rapport à une expression, à deux mots, à la façon d'appeler un plat ou un objet. Ça démarque des identités qui sont très intéressantes, très riches, et desquelles on peut apprendre. Moi, il y a une musique française d'une part, mais aussi bien sûr gitane, qui me fascine, qui est le jazz manouche. Qui me fascinait déjà avant de venir ici, mais en étant ici, c'est juste à portée de main. Et je vois dans cette musique, par exemple, pour rattacher à ce que je disais sur le jazz et la liberté, une façon de s'exprimer aussi baignée dans l'improvisation et dans l'interaction avec les autres, parce que c'est des musiques où la part écrite, la part établie est minuscule en comparaison à tout le reste des choses qui se passent dans la musique, qui sont improvisées, qui sont fils et filles du moment où elles apparaissent. Ça m'a beaucoup rapproché cette musique de la musique que je pouvais entendre à Lima dans la rue, de par des musiciens typique de là-bas, même si typique c'est peut-être pas le bon mot, mais autochtone en tout cas. Et ben ça renforce cette vision que j'ai. Je suis absolument pas le seul à voir que la musique, c'est un langage universel. Il y a des points communs de partout, peu importe là où tu es dans le monde.
Et donc vous arrivez dans la région lyonnaise, pourquoi faire pour perfectionner votre musique, votre apprentissage de la musique?
Oui, d'une certaine part, oui, j'ai choisi Lyon bien à l'avance parce que en fait j'ai beaucoup de famille en France. La famille est grande, soi-disant, du coup. Et Lyon, c'était une des villes où j'avais pas mal de famille, ce qui m'a permis d'être bien, très très bien et très facilement accueilli quand je suis arrivé. Mais aussi, j'avais vu que la ville elle-même, de par de sa taille, de par de sa dynamique, surtout étudiante, elle m'a beaucoup attiré, même encore plus que certaines autres villes comme Marseille, Toulouse ou Paris même. Et le conservatoire d'ici était très bien réputé. Du coup, je me suis pas trop posé la question. Je suis venu sur Lyon direct. Avec les yeux ouverts et les oreilles aussi, histoire de pouvoir découvrir autant que je puisse, parce que c'est celui qui veut trouver le plus dans un endroit qui va chercher aussi le plus. Et depuis que je suis sur Lyon, j'arrête pas de chercher, j'arrête pas de trouver. Ça, voilà, c'est un boucle, c'est une boucle maintenant.
Toujours avec nous sur Radio G 101.5 FM avec le quartet Toum d'été. Alors, on va revenir sur votre groupe Toon d'été, et notamment sur le nom. Qu'est-ce qui signifie et pourquoi ce nom?
Le nom vient d'un terme de jargon de Lima qui décrit la façon d'accompagner à la guitare une valse créole. Alors, les valses créoles, telles qu'on les appelle là-bas, ça n'a rien à voir avec le créole qu'on comprend en français, c'est juste un créole qui veut dire métisse. Et vu que dans la côte de Lima, notamment, de part de la colonisation, du métissage qu'il y a eu, de l'indépendance et toute la mixité culturelle, de part aussi que Lima est une ville portuaire, du coup, qui a connu beaucoup de différentes cultures qui sont passées par là et qui sont restées pour la plupart, heureusement. Il y a eu ce style de valse qui imitait la valse viennoise. Qu'on dansait typiquement ici, tous les lacs des cygnes et tout, voilà, toutes ces danses typiques européennes quand elles étaient exportées là-bas, vu que elles étaient exportées dans des grosses formations d'orchestre et tout ça, les gens de la rue de là-bas, ils ne pouvaient que essayer d'imiter ça d'une façon ou d'une autre, et avec des instruments beaucoup plus folkloriques et beaucoup plus rattachés au peuple, comme la guitare et dans le XXe siècle le cajon, qui est un instrument péruvien au cœur même, je dirais, de cette musique, est née une version de cette valse viennoise, mais avec des rythmes un peu plus afro, et du coup l'accompagnement, ce n'était plus tourara tourara, mais tundete tundete, plus piqué, plus court et plus rythmé. Et c'est de là que naît le mot tundete.
Alors, Adriel, vous composez vos propres musiques. Quelles sont vos influences et qu'est-ce qui vous inspire pour,
Oui, c'est vrai qu'avec ce projet, je me suis beaucoup investi dans la composition. Et, en fait, je suis quelqu'un qui... Quand une idée me vient à l'esprit, j'ai besoin de la concrétiser déjà pour la saisir. Ça veut dire que quand j'ai une idée musicale en tête ou un bout suffisamment savoureux, suffisamment plein d'essence, et j'essaye de directement lui attacher une identité, notamment la façon la plus facile, mettre un titre sur cette idée musicale. Et du coup, quand je compose, ça vient de n'importe où. Ça vient d'une sensation que j'ai eue en marchant dans la rue. Ça vient d'un rêve à mi-souvenir d'il y a 2 semaines qui est passé par mon cerveau une après-midi. Et notamment, dans ce quartet, il y a beaucoup d'inspiration de mon souvenir et mon expérience du Pérou, de ce pays qui m'a vu grandir et qui m'est très cher, notamment de sa cuisine, parce que c'est un truc que je veux mettre en avant sur le Pérou, c'est que la gastronomie péruvienne, c'est quelque chose qu'on devrait connaître beaucoup plus. Et du coup, ça réveille mon estomac, ça réveille mon inspiration, et je peux écrire comme ça.
Donc manger avant de composer, c'est l'idéal.
Par exemple, c'est une très bonne méthode.
Au final, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avec votre musique en tant qu'artiste ?
Depuis que je me suis lancé dans l'art, si on peut appeler ça comme ça, c'est toujours la question que je me pose, vu que quand on interprète d'autres œuvres, quand on est dans le moment de l'expérience d'une œuvre d'autrui, notre interprétation, elle va toujours différer du sens originel que quelqu'un a pu prétendre donner à cette œuvre. Et parfois, c'est plus proche du, entre guillemets, sens originel. Parfois, c'est plus loin. Mais il y a toujours une réponse. Et je trouve que cette j'utilise encore le terme, cette étincelle qui réveille en nous quelque chose de indescriptible quand on fait face à de l'art. J'essaye non pas de la contrôler, mais au moins dans mon projet, ce qui est clair, parce que beaucoup de ce processus, aussi bien de composition que d'arrangement que d'improvisation, je pense que c'est des trucs qu'on ne doit pas penser. C'est comme l'entraînement technique. On travaille sa technique tous les jours, histoire que le jour du concert, on n'ait même pas à y penser. C'est juste notre outil, notre façon naturelle de nous exprimer. Du coup, pour le sens ou l'intention qu'on donne à des compositions, justement, je parlais de la cuisine tout à l'heure. Dans le projet, j'ai deux compositions qui sont exclusivement dédiées à deux plats, un fruit et un plat péruvien que je tiens à cœur beaucoup, et qui, les compositions elles-mêmes, quand j'ai commencé à les faire et dans la lignée, dans l'expérience de les aboutir, c'est-à-dire de commencer à les travailler, les corriger, les regarder, les laisser un petit temps, puis revenir des semaines après, rajouter ce détail, les tester en groupe. Bref, tout le processus de composition et d'établissement d'une composition, ces deux compositions qui sont parties pour que je puisse mettre en note les sensations que j'avais en goûtant ces plats. Et si jamais lors de notre premier concert, j'ai pu expliquer avant de jouer ces morceaux en quoi consistait le fruit et le plat, et j'ai eu beaucoup de retours de part des gens qui m'ont dit ah oui, ça m'a vraiment fait rêver, j'ai presque pu goûter un peu de cette saveur, même si je sais pas ce que c'est, et peut-être que je goûterai jamais, vu que c'est des trucs qu'on trouve pas en France. Et ça, moi, ça, personnellement, ça me suffit et ça me emplit le cœur de pouvoir partager à travers le son des goûts d'une terre qui est à plus de 10 000 kilomètres de distance. Je trouve ça époustouflant.
Mmh. Exactement. Alors, Adriel, eh bien, on va écouter un extrait du morceau Negra y Punto. Qu'est-ce que cette musique évoque?
Rien que dans ce début de composition, j'ai voulu mettre une part de douceur avec la guitare qui arpège là au début d'une façon très, d'une part mélancolique, mais d'une part aussi constante. C'est toujours des musiques qui avancent, je trouve, parce que le rythme est au sein de tout ce qu'on fait. Et notamment là, par exemple, dans ce petit extrait, il y a le riff principal du morceau qui est énergétique, qui est lourd, du moins c'est ce qu'on essaye de le rendre, avec cette percussion qui va un peu dans tous les sens, mais qui reste toujours dans le groove. Cette idée de groove est très très importante dans la musique qu'on fait avec le quartet, et c'est là où j'aimerais bien aussi faire un petit point d'appréciation de mes musiciens, des musiciens avec qui je joue, parce que non seulement Grégoire est quelqu'un qui comprend même plus profondément que moi les rythmes, vraiment dans la percussion et dans le frappé de la musique afro-péruvienne, il comprend ce qui est essentiel et il le met au premier plan pour que avec Léo à la contrebasse, on puisse créer ce tapis harmonique et de matière sonore pour rajouter Lisa au-dessus et avoir une espèce de gâteau en trois parties riche de façon équitative et qui produit un certain mouvement chez les gens. Ce rythme, notamment celui de ma composition Negre y Punto, est un lando. Et le lando, c'est comme le blues afro-péruvien, dans le sens où c'est un rythme très contemplatif, très de lamentation, mais qui possède une énergie, une espèce de colère intérieure et de mouvement constant, spastique, si on peut dire, très très dense et très profond. Et c'est un peu ça que je voulais recapturer par les notes et par le groove, par l'harmonie dans cette composition. En tout cas, rendre hommage à ce lando.
Et le titre, juste pour terminer, oui. Negra y Punto, comment tu le traduire?
Ça veut dire noir et point, et c'est juste un jeu de mots du fait que la figure musicale la plus importante dans ce style de musique, c'est ce que ici on appellerait la noire pointée, du coup la negra punteada en espagnol, et noir et point, c'est aussi l'autre sens, c'est de dire que cette musique, notamment le lando, mais aussi beaucoup de styles afro-péruviens, c'est des musiques noires à l'origine. Et il n'y a pas de discussion sur ça. C'est noir et point. Nous, on essaie de leur rendre hommage, de les réinterpréter. Mais un truc que m'a dit mon deuxième prof et que je garderai toujours avec moi, c'est pour faire de la fusion, faut bien connaître ses ingrédients, parce que sinon, c'est très facile de faire de la confusion.
Eh bien, merci Adriel pour ce beau message et d'avoir partagé avec nous ce moment.
Merci à toi Marine, c'était un plaisir.
On vous retrouve sur les réseaux et on vous écoute sur toutes les plateformes. Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.
Radio G 101.5 FM.